PM. Dreville PM. Politique.
Nous avons fait le choix réfléchi de nous en tenir au cadre légal provincial et de ne pas restreindre davantage la consommation de cannabis sur l'espace public. Bref, on a fait nos devoirs. Faut pas banaliser l'utilisation du cannabis à des fins non thérapeutiques, mais nous devons agir de façon responsable et c'est exactement ce que l'on fait.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'est Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui un peu plus tôt ce matin rendait public, dans le fond, la réglementation qui va s'appliquer en matière de consommation de cannabis sur le territoire de la ville de Montréal. Et Paul Journet, l'éditorialiste à la presse, y était. Bonjour, Paul.
J'étais là-bas et je suis ici en ce moment, Bernard.
Tu es très fort. Carl Bélanger, consultant communication et stratège politique, est-ce que tu es aussi fort que Paul?
Mais j'étais nulle part.
Oui, bon. Ben écoute, on t'aime pareil.
C'est bien, merci.
Paul Journet.
Moi, ça met toujours mal à l'aise, les propos tristes.
Oui, je pensais que tu parlais d'une comparaison qui te met particulièrement en valeur.
Ah non, pas du tout, Bernard.
Ça te réjouit.
Non, ça ne met pas en valeur. Moi, je rentre pas là-dedans.
Ton cœur est heureux. Alors, est-ce que tu es heureux? Tu vas pouvoir fumer du pot, mon ami, un peu partout sur le territoire de Montréal?
Écoute,
c'est ce que j'ai compris.
Attends, à partir du 17 octobre,
oui.
Et puis on va voir si ça va bien se passer ou non.
Tu m'invites à la consommation responsable?
Non, même pas. Moi, non? Je t'invite à ne pas banaliser oui. la nouvelle substance qui sera légalisée. Et pour le reste, tu es un adulte libre de tes choix, mais je t'invite à absolument rien, Bernard.
Très bien.
Tu fais ce que tu veux, c'est pas de mes affaires.
Très bien, Paul, c'est gentil.
Mais...
Oui.
Donc, la mairesse Plante a présenté la réglementation qui va s'appliquer à Montréal. Écoute, je trouve que c'est un sans faute. Ce qu'elle a fait, en gros, Valérie Plante, elle s'est assise, elle a regardé ce qui se fait aux États-Unis, ce que d'autres villes canadiennes veulent faire et surtout, elle a lu les rapports des directions de la santé publique, elle leur a parlé. Puis, elle a tout simplement développé une réglementation qui était conforme aux recommandations de la santé publique.
Et c'est quoi ces recommandations-là?
En gros, c'est de suivre le régime qui existe pour le tabac dans les interdictions des lieux où on peut consommer, parce que là, forcément, on parle de réglementation municipale. Hein. Les
oui.
pouvoirs municipaux sont limités.
Oui.
Ce que la mairesse Plante doit décider, c'est où est-ce qu'on peut le fumer, essentiellement. Et elle dit qu'on devrait avoir un régime comme le tabac avec certaines restrictions additionnelles. Donc, évidemment, tu ne veux pas fumer au bureau. Tu peux plus fumer dans les bibliothèques ou dans les hôpitaux. Hein. C'est
D'accord.
fini, cette époque-là. Mais on devrait pouvoir fumer, selon la mairesse Plante, dans les lieux publics.
Donc, sur le bord du trottoir.
Sur le bord du trottoir.
À une certaine distance de la
porte.
C'est
ça. Habituellement, c'est 9 mètres des portes, mais tu ne peux pas fumer dans les parcs, dans les aires de jeu, terrain de soccer, etc.
Tu peux fumer la cigarette dans un parc?
Excuse-moi, les aires de jeu des parcs.
Ah, voilà.
Ce que je veux dire, c'est ça. Les endroits, par exemple, où il y a des enfants qui vont se balancer, des enfants où les enfants jouent au soccer. Autre restriction additionnelle, les terrains des établissements post-secondaires, des cégeps ou des universités, tu ne pourras pas consommer de cannabis là-bas.
Y compris dans les parcs, là.
Oui.
Sur l'ensemble du territoire de l'établissement collégial ou universitaire, c'est interdiction complète.
Oui, ben il faudrait voir, c'est ce que j'ai compris, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de parcs
sur les campus, oui, c'est ça. Ce que je comprends, c'est que tu pourras pas dans ces parcs-là.
C'est ces espaces
verts.
Oui, c'est ce que j'ai compris. Moi, c'est ce qui est défini comme étant le territoire du cégep et de l'université. Puis sa logique, c'est que pour Montréal, là, il y a 60% de locataires. Si on dit que les gens ne
60 pourront... t'es sûr?
C'est le chiffre qui a été donné. Et si on dit que les gens ne peuvent pas fumer, ne pourront probablement pas fumer chez eux, parce
oui.
que si tu es un propriétaire, tu peux inscrire dans ton bail que la personne ne pourra pas fumer de cannabis parce que l'odeur incommode les voisins.
Oui.
Idem pour les conventions de copropriété.
Oui, les
Donc,
condos,
les Montréalais, oui. on légalise une substance, ils pourront pas la fumer chez eux. S'ils peuvent pas la fumer dehors non plus, où est-ce qu'ils vont pouvoir la fumer? Et ce que Mme Plante a expliqué en se référant aux professionnels de la santé publique, c'est que si on légalise une substance, puis ensuite on empêche de fumer partout, les premières personnes qui vont payer le prix, souvent, c'est les gens déjà marginalisés qui vont être victimes des policiers. Les policiers vont se mettre un peu plus sur leur cas. Donc, toutes sortes d'effets pervers qu'elle veut prévenir avec sa réglementation.
OK. Est-ce qu'on va pouvoir le fumer, par exemple, les petits coffee shops là, qui existent dans
pas.
Certains... Oui, mais est-ce qu'on pourrait en ouvrir éventuellement des coffee shops un peu comme on en a à Amsterdam?
Pas en ce moment. Peut-être que dans quelques années, on va aller vers là, mais ce n'est pas permis en ce moment.
Mais elle ne le permettra pas.
Ben moi, ce que je comprends, c'est que c'est pas de son pouvoir de le permettre.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est pas
ça relève du provincial. Puis ça, c'est un autre de ses arguments. Parce que, contrairement à l'alcool, il y a des gens qui vont dire, l'alcool, on peut pas le consommer sur les lieux publics, on peut pas le consommer dans les parcs. C'est pas tout à fait vrai, parce que si tu as de la nourriture, tu peux consommer de l'alcool. Puis des fois, les policiers vont fermer les yeux, vont tolérer. Mais bon, il y a des gens qui disent, tu peux pas fumer, tu peux pas boire d'alcool dans un parc, donc pourquoi est-ce que tu devrais pouvoir prendre du cannabis? Mais c'est parce qu'il y a deux grosses différences. La première, tu peux prendre de l'alcool chez vous, ce sera pas le cas pour le cannabis. La deuxième, tu peux prendre de l'alcool au café, dans un café, dans un restaurant, dans un bar. Il y a des établissements licenciés, tu n'en as pas pour le cannabis. Donc, à un moment donné, il faut garder un petit espace où tu peux le consommer.
Oui. Sur l'histoire des baux, là, est-ce que le bail, mettons que tu as signé déjà ton bail, est-ce que le propriétaire du logement va pouvoir rétroactivement changer les termes du bail pour t'interdire de fumer du cannabis?
Ça, c'est la grosse question. J'avais compris qu'il y avait peut-être une période de délai de 90 jours de préavis, mais c'est un problème qui est bien temporaire parce que de toute façon, à partir du 1er juillet, tout le monde va pouvoir l'ajouter au bail. Donc, c'est pas un problème là, vraiment pour le long terme. Mais Bernard, l'éléphant dans la pièce, je te dis que Mme Plante a suivi ce que la santé publique recommandait puis que ça me semble être tout à fait excellent. Ben, il en demeure pas moins qu'il y avait un gros éléphant dans la pièce, puis il y a un problème à venir, indépendamment de la volonté de Mme Plante. C'est le nouveau gouvernement désigné de la Coalition Avenir Québec qui voudrait interdire la consommation dans les lieux publics. Et un deuxième obstacle, certains arrondissements de Montréal, il y en a quatre, dont Montréal-Nord, voudraient eux aussi interdire la consommation dans les lieux publics. Donc, elle a bien beau, la mairesse, faire quelque chose qui semble tout à fait cohérent, mais elle risque d'avoir des problèmes avec les arrondissements et avec le gouvernement du Québec.
Carl, vas-y.
L'autre chose à considérer, c'est que si ça s'en va dans cette direction-là, que les arrondissements font leur truc indépendamment, on va se ramasser avec un fouillis de règlements à travers la province et à travers l'île de Montréal même. Et c'est un peu ça le problème qui a été souligné dans le passé, c'est que les citoyens ordinaires, là, ils lisent pas les règlements municipaux de chaque ville qu'ils visitent. Alors, quand tu vas à Gatineau, ben, t'as le droit de fumer partout. Quand tu vas à Montréal, t'as le droit de fumer partout, sauf à l'arrondissement un tel. Et puis, quand tu vas à Québec, t'as pas le droit de fumer nulle part.
Non, mais quand ça va être le bordel
ben
total.
Ben oui, puis en plus, imagine, si t'es gelé puis tu te rends pas compte dans quel arrondissement t'es rendu, c'est compliqué.
Okay, il y a des gens qui se promènent allègrement d'un arrestation à l'autre, même quand ils sont gelés.
Non, mais sérieux, c'est un policier, qui doit faire appliquer la réglementation municipale, OK? La réglementation pour l'ensemble de la ville de Montréal, c'est, grosso modo, même règle que la cigarette, OK? Mais, par contre, tu as une courte pointe qui commence à se dessiner. Dans certains arrondissements, tu peux pas fumer.
Il va avoir besoin de Google Maps pour intervenir, Bernard. Puis c'est pour ça que je fais l'analogie avec le tabac. Est-ce qu'on a une politique de tabac qui varie à ce point-là selon le coin de rue où tu te trouves?
Mais non. La réponse est non.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Carl? Parce que, je veux dire, tu peux pas enlever aux arrondissements les pouvoirs qui sont les leurs. Est-ce que la CAQ, quand elle va arriver avec sa législation sur les lieux publics et sur le 21 ans aussi, hein? Faut pas l'oublier, hein? Ils vont monter, en tout cas, c'est ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ils vont augmenter de 18 à 21 ans l'âge légal de consommer. Est-ce qu'ils pourraient, à travers ce projet de loi-là, essayer d'uniformiser les réglementations, pour les villes pour éviter qu'on se retrouve avec un espèce de micmac de casse-tête d'application?
C'est ce que l'Ontario a fait. Des règles qui sont les mêmes pour l'ensemble du territoire ontarien. Mais le problème, c'est que tu arrives quand même dans un certain fouillis parce que tu as des territoires fédéraux où la réglementation municipale, en théorie, ne s'applique pas.
Comme quoi?
Par exemple, à Ottawa, tu as la commission de la capitale nationale, donc tu as le parc de la Gatineau, tu as des choses comme ça. Donc, les juridictions, il y a un châssis croisé. Et le problème, lorsque tu as différentes interprétations de la loi, dépendamment d'un endroit à un autre, ben, les citoyens deviennent très, très confus et pour les forces de l'ordre, ça devient tout un casse-tête parce que même si nul n'est censé ignorer la loi, la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui va s'y retrouver. Et ça, à la base, ça remonte au fait que Justin Trudeau est allé de l'avant, peu importe les problèmes qu'il y avait en avant de lui, il pelletait ça dans le cours des provinces, puis il pelletait ça dans le cours des municipalités, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un peu d'incohérence au niveau de l'application de la loi.
Ouais, OK. Moi, je redis, là, on va avoir la mairesse Valérie Plante dans à peu près une dizaine de minutes, là. Fait qu'on va lui poser la question des arrondissements. Elle a pensé à ça. J'imagine qu'elle a une proposition, une solution à nous offrir. Coffee Shop, on va y poser la question également. La question des baux. Je veux bien croire, là, Paul, que les baux viennent à échéance à la fin juin. Mais je veux dire, entre octobre et fin juin, là, est-ce que les gens vont pouvoir fumer dans leur appartement ou le propriétaire se présente, cogne à ta porte puis dit « je sens l'odeur du pot, garde, t'as pas le droit ». Mais oui, j'ai le droit, il y a rien qui me... Non, non, garde, on va changer le bail, mon homme, tu sais, tout de suite, là, je change le bail, t'auras pas le droit.
Tous ces différents problèmes-là que t'évoques ont la même conséquence, c'est-à-dire qu'on va prendre le précieux temps des policiers puis on va leur demander de l'utiliser pour sévir contre des délits mineurs où la personne ne fait de mal à aucun autre individu qu'elle-même. Or, on voulait sortir justement de ce régime de criminalisation, de judiciarisation, pour avoir une perspective de santé publique.
Ça ne sera pas seulement les policiers. Tout l'appareil judiciaire va être paralysé par plusieurs contestations. Moi, je te dis qu'il y aura des causes de citoyens qui vont se battre contre un règlement ou contre un autre, qui vont se rendre assez loin dans le système.
Mais dans les immeubles appartements, les amis, là,
ça, je comprends.
Dans les immeubles appartements, ça peut être absolument infernal.
Ça, je comprends.
Ça se met à puer dans un immeuble appartement, là.
T'as des enfants.
Ça peut être l'enfer. Quelqu'un qui dit que ça pue, c'est pas à moi de lui dire que ça ne pue pas. Si ça l'incommode, il a tout à fait raison de demander à ce qu'il y ait un contrôle. Voilà. Ça, on est d'accord là-dessus. Là. Ouais. Moi, je prends pas le laisser aller dans les baux et dans les conventions de copropriété.
OK, on s'arrête parce qu'au retour, on a beaucoup d'autres matières, y compris un petit souper. Hein, un petit souper de Mme Freeland. La ministre, avec le négociateur américain Lighthizer, là, ils sont fait un petit party, apparemment. De retour avec Paul et Carl. Carl, parle-nous de ce petit souper entre Mme Freeland et M. Lighthizer, là, les deux qui ont négocié ce nouvel accord de libre-échange.
Ben oui, une invitation à souper, toi, pour M. Lighthizer, qui n'était pas venu au Canada pour discuter de commerce. Depuis, je pense, le mois de janvier, quand il y a eu la ronde officielle de négociation à Montréal. Mais là, fallait célébrer, hein, et Mme Freeland a invité M. Lighthizer à venir partager un bon petit repas maison, un bon repas chaud.
Pourquoi, là? Parce qu'ils ont réussi ou parce que c'était l'anniversaire de l'un des deux ou quoi?
Non, c'est semble que c'était pour célébrer là, l'accord et puis pour parler des choses qui allaient venir. Il y a plusieurs irritants qui demeurent,
C'est un haïssable, Lighthizer. Il nous a fait la vie dure pendant toutes les négociations.
C'est sûr que c'est un négociateur qui joue très dur, mais on dit qu'il a appris à respecter Freeland et que les deux ont développé une espèce de respect mutuel, voire même peut-être une amitié, et qui ont fait leur travail pour leur pays respectif, mais qu'ils ont développé un rapport, disons, assez intéressant. Et donc, Mme Freeland veut cultiver ça.
Un rapport assez intéressant.
Ben, c'est ce qu'on me dit. Moi, c'est que les deux s'aiment bien. Je veux pas m'avancer trop loin.
Non, mais avance-toi pas, là, parce que t'es sur un terrain glissant. Mais le party a eu lieu, là. C'était hier soir, party, là.
À la maison, une petite maison de Mme Freeland dans un beau petit quartier de Toronto. J'imagine qu'il y avait des fromages canadiens en abondance et des bons produits laitiers du Canada.
Oui.
On me dit aussi que Robert Lighthizer, est friand de bonbons à l'érable.
Okay.
Des petits bonbons durs, des petits bonbons mous à l'érable, tellement que la délégation canadienne en amenait à toutes les réunions à Washington pour qu'il en aille. Alors, je sais pas, l'histoire dit pas si ça a aidé à adoucir les positions de Lighthizer.
Ouais, ben c'est ça, là.
Il aime ça manger du Canada, hein.
Il aime ça manger du Canada, du Canada érable, du Canada laitier. Donc, il en a mangé en masse. Écoute, il y a plusieurs irritants qui demeurent. Les deux pays sont toujours, il n'y a pas à s'en sortir. On est toujours aux prises avec une guerre commerciale avec les États-Unis.
Les tarifs
de l'acier sont en place.
Ben, c'est ça.
L'aluminium, c'est en place.
Ben, c'est ça.
Puis la réplique du Canada sur toute une série de produits américains sont aussi en place.
Ben oui, c'est ça.
Alors, faut essayer de trouver une solution là-dessus.
C'est pas un peu prématuré, fêter, quand on a encore un tarif de 25% sur notre acier puis un autre de 10% sur notre aluminium, notamment?
Ben, c'est en effet une très bonne question. Il n'en demeure pas moins que les deux gouvernements sont maintenant alliés dans la vente de l'accord à leurs populations respectives.
Ben, je suis pas sûr que ça aide, moi, dans la vente.
Ben,
moi,
je sais
de
pas.
Savoir que notre ministre fait le party avec le négociateur américain, je sais pas, là.
Ben,
le
party,
revoir. Tu sais pas à quel point c'était festif, là, t'étais pas là, mais...
Ben là, ils ont mangé des petits bonbons, ils ont dû boire un peu de vin.
Sûrement qu'ils ont bu un peu de vin.
Ils ont-tu fumé du pot, tu penses?
C'est pas légal.
Ouais, mais là, du pot thérapeutique. Mais non, mais du pot thérapeutique.
Mais c'est jamais une mauvaise chose que deux personnes...
Que de fumer du pot thérapeutique.
Est-ce que je poursuis ma phrase ou je m'arrête là?
Vas-y, Paul, vas-y, Paul, on
va la poursuivre, voir, ça s'en allait ailleurs.
On est avec toi, Paul.
J'allais dire que tu veux toujours souhaiter que les dirigeants politiques nouent des relations personnelles. Des fois, ça peut aider à mieux comprendre l'autre.
Oui.
C'est-à-dire mieux comprendre ses stratégies, ses intérêts, ses craintes, puis ça ne peut qu'aider. Puis j'ajouterais sur le plan plus personnel, Bernard, qui n'a pas déjà invité, un peu malgré lui, quelqu'un d'haïssable à souper. On ne jugera pas la ministre pour ça.
Tu as raison.
Mais c'est un peu comme un retour.
Mais je te demanderai pas de nom pour autant. Vas-y, Carl.
C'est un peu comme un retour à la stratégie initiale, hein, lorsqu'au début du mandat de Donald Trump, on tentait de se rapprocher de l'administration américaine et de les flatter dans le sens du poil.
Ouais. Après ça, on a vu ce que ça a donné aussi.
Ben, c'est ça. Puis là, on s'est mis à parler tough. Puis là, ben ça a donné l'accord qu'on a. Mm. Puis là, ben on commence là peut-être à donner des bonbons à l'érable.
À faire des minouches. Ok. Ouais. Vite, Paul, parle-nous un petit peu de l'avenir du Parti québécois en 2 minutes?
En 2 minutes, on peut commencer par son avenir à court terme. On sait qui sera son chef intérimaire. C'est Pascal Hubé-Rubé qui a été choisi. Légère surprise pour ma part, parce que je pensais qu'il pourrait avoir des ambitions pour la chefferie. Mmh. Or, il dit que non. C'est une bonne nouvelle pour le Parti québécois, parce qu'on le sait, Pascal Hubé-Rubé, il est redoutable. C'est un parlementaire d'une hyper grande efficacité.
Mmh.
Et absolument. Ça, c'est pas juste, on n'est pas juste en train de commenter la joute en disant ça. Ça peut avoir aussi, ça va dans le sens de l'intérêt public, avoir un parlementaire qui est capable de poser les bonnes questions au gouvernement, de le placer devant ses contradictions, d'aller chercher des informations qui nous permettent à mieux forcer un gouvernement à rendre des comptes à la population. Maintenant, la chose qui me semble très importante pour la suite des choses, pour le Parti québécois, c'est est-ce qu'ils vont prendre le temps de respirer, de faire un peu d'introspection avant de se lancer dans la course à la direction. Véronique Yvon a dit aussi que oui, que ouais. Le temps était leur principal allié. Pascal Bérubé, hier, tout de suite, semblait dire, en fait, il l'a dit clairement, il y en a qui voudraient qu'on tire un trait sur le mouvement, dire que le Parti québécois est arrivé à la fin de sa vie utile. Non, notre histoire se poursuit. C'est vrai que de son côté, on s'attendait à rien d'autre. Le travail se poursuit. Pour lui, il a été élu, il doit honorer le mandat, mais je pense que le Parti québécois ne peut absolument pas faire l'économie d'une réflexion profonde sur son avenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lettre ouverte de l'ancien ministre péquiste Régent Hébert, qui en appelle à nouveau à une alliance avec Québec solidaire. Il a même trouvé un nom.
Oui.
Non, ça serait l'Union solidaire.
C'est ça. Il propose en fait de fusionner les deux partis en un seul, qui s'appellerait l'Union solidaire ou le US. Ouais,
mais
c'est ça.
La difficulté pour les débats, c'est que c'est toujours plus facile de fusionner un parti avec un autre quand il y a un gros puis un petit. Or, ils sont à peu près à force égale maintenant. Égale, t'as plus un combat qu'un joueur qui avale l'autre, comme ça avait été le cas.
Le Parti québécois a quand même 80 000 membres. Force égale, Québec solidaire, ils ont des membres, mais le Parti québécois a 80 000 membres encore.
Ouais, ils n'ont pas le même âge, mais bon, on ne sortira pas les chiffres, mais ils ont le même nombre de députés ou presque.
Je vous arrête, Paul et Carl, parce qu'on m'a dit que la mairesse Plante est déjà là. Donc, on s'arrête quelques instants. On revient avec Valérie Plante.